Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des nanoparticules et des polymères en compagnie de Gérald Casteroux de l'équipe ICMV de l'Institut Chimique de Rennes. Au-delà du mythe, pénétrons dans les arcanes du monde des nanos. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Beaulieu en compagnie de Gérald Casteroux de l'Institut de Chimie de Rennes. Gérald, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton domaine d'études ? Il me semble que toi tu étudies les nanoparticules et les nanobâtonnets ainsi que les oxydes métalliques.
Je suis en deuxième année de thèse dans l'Institut des sciences chimiques de Rennes, dans une équipe qui s'appelle Ingénierie chimique et molécules pour le vivant, donc par la suite je dirais ICMV parce que c'est plus court, sous la direction du docteur Fabien Goffre. Et donc nous, ce qu'on se propose d'étudier, en fait, c'est la synthèse, la modification et les applications de nanoparticules d'oxyde métallique. Avant de commencer de parler de mon travail, je vais resituer un petit peu ce qu'est la nanotechnologie, les nanoparticules, parce que dans l'imaginaire, notamment moi, au quotidien, ce que je sais des nanoparticules, par exemple, par rapport à mes propres références, notamment Deus Ex, ben en fait, on n'en est pas là. Des nanoparticules, en fait, c'est des particules qu'il faut imaginer comme des grains de poussière, mais qui sont à l'échelle du nanomètre, donc à 10 puissance moins 9 mètres. Donc c'est très petit, et en fait, c'est juste des particules de... Il peut y avoir différents types de particules, des particules d'or, des particules d'oxyde de zinc, des particules de zinc, des particules de fer, des particules de plein de trucs, en fait, de silice, ou des particules aussi qui sont organiques, mais j'y reviendrai. Donc en fait c'est très très varié, la nanoparticule en fait ça peut être tout et n'importe quoi du moment que c'est à l'échelle du nanomètre. Donc on peut avoir des nanoparticules qu'on dit inorganiques, où ça va être juste des métaux par exemple, tout ce qui est minéral en fait, inorganique, et les particules organiques qui vont être elles à la base de polymères, ou de protéines, ou plein d'autres choses, parce que leurs dimensions en fait sont inférieures à 100 nanomètres. C'est ça la définition, la grosse définition, tout. Une nanoparticule, c'est une particule dont l'une de ses dimensions est inférieure à 100 nanomètres. Donc partant de ce principe, en fait, le domaine est très varié. Il y a des choses très belles qui se font, mais on n'est pas encore au nanorobot qui va améliorer les compétences humaines, on n'en est pas encore à faire des sauts de 10 mètres, monter la tour Eiffel juste avec les mains, enfin, il y en a qui le font, mais voilà, on n'en est pas encore là. Mais on en est à des... Il y a pas mal de choses qui se font, et c'est vraiment intéressant, et donc je vous propose de rentrer plus en détail dans mon sujet de recherche par la suite et après cette brève introduction sur le monde génial des nanos, voir un petit peu ce que moi je fais, quelles contributions je peux apporter à ça. Donc je disais qu'une nanoparticule, c'est une particule dont une de ses dimensions est inférieure à 100 nanomètres. C'est, quand on parle de dimension, c'est longueur, hauteur, largeur. Si on prend l'exemple des nanotubes de carbone, vous pouvez avoir un nanotube de carbone qui fait 2 mètres de long, mais du moment que son diamètre est inférieur à 100 nanomètres, c'est toujours une nanoparticule, c'est toujours de l'ordre du nano. Alors, il aura beau faire 2 mètres, vous ne le verrez pas, son diamètre est trop petit pour qu'on puisse le voir. Donc ça, c'est la définition d'une nanoparticule. On retrouve aussi des nanoparticules, des exemples de nanoparticules partout dans le vivant. Par exemple, vous prenez le lait. Pourquoi le lait est blanc ? En fait, c'est parce que c'est une suspension colloïdale. Donc c'est le colloïdal, c'est juste qu'en fait c'est plein de particules qui sont en solution, qui sont stables, qui ne tombent pas en fait. Ça c'est une suspension colloïdale. Et du fait qu'il y a des grosses particules, donc là c'est surtout des protéines en fait, la lumière est énormément diffusée, ce qui fait que le lait apparaît blanc. En fait c'est juste par un effet de diffusion de lumière parce qu'il y a plein de grosses particules à l'intérieur qui sont totalement sans danger parce que c'est juste du lait en fait. Mais ça c'est un exemple de nanoparticules. Avec le plomb, les anciens égyptiens utilisaient des solutions à base de plomb pour se teindre les cheveux en noir, pour pas avoir les cheveux blancs. Bon ça n'a pas trop changé, hein. Il y a toujours des gens qui se teignent pour plus avoir les cheveux blancs. Mais là ils utilisaient du plomb, on le fait plus. Et ce qui fait qu'avec la kératine qui est contenue dans les cheveux, il y avait une réduction du plomb qui fait que ça faisait des nanoparticules de plomb. Et c'est pour ça qu'en fait, ils avaient les cheveux très noirs. Parce qu'en fait, ils formaient des nanoparticules. Donc, On commence à utiliser, à exploiter réellement les nanoparticules, à les comprendre depuis à peu près 40 ans peut-être. Les premières nanoparticules, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de cette sorte d'idée. Mais on a des exemples concrets partout dans notre quotidien où il y a déjà des nanoparticules. Ça fait peur aux gens parce que c'est, y a toute une thématique sur la dangerosité des nanos, plus ou moins justifiée. Mais il faut bien comprendre que la nanotechnologie, c'est très vaste. Et c'est pas juste des mecs comme moi avec une blouse qui font, qui jouent aux apprentis sorciers, etc. Non, non, non. C'est très varié et il y a déjà des nanoparticules, des exemples de partout. Voilà, donc c'est très vaste, c'est très intéressant. Et moi, j'ai choisi d'étudier les oxydes métalliques de fer et de zinc. C'est des métaux assez courants. Je commence tout de suite par dire qu'elles ne sont pas toxiques. Ça, c'est plutôt le point positif. Et c'est des nanoparticules qui ont des propriétés totalement différentes. Ça, c'est une autre propriété des nanos. En changeant juste, par exemple, là, c'est des oxydes de fer ou des oxydes de zinc, donc c'est un mélange d'oxygène et d'un métal. Mais il suffit de changer le métal pour qu'on ait des propriétés totalement différentes. Les oxydes de zinc vont avoir des propriétés optiques, c'est-à-dire qu'on va les exciter avec de la lumière, ils vont rendre de la lumière de plus basse énergie. Ça se traduit, en fait, on lui donne de l'ultraviolet et il brille jaune, en fait. Parce que le jaune est moins énergétique que l'ultraviolet. Voilà, sans rentrer dans les détails. Et les oxydes de fer, en fait, c'est des nano-aimants. Les oxydes de fer, on pourrait les utiliser dans plein d'applications, notamment médicales comme de l'hyperthermie. Donc on va traiter les cancers par la chaleur, en fait. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais grâce aux nano, on va réussir à augmenter la température à l'endroit où sont les nanoparticules, qui fait que ça va perturber toute la machinerie cellulaire. Et comme on est sympa, on s'est arrangé pour que ça soit dans les cellules cancéreuses. Qui fait qu'on pourra détruire des cellules cancéreuses grâce à ces nanos. On fait aussi de l'IRM, donc ça moi je travaille un petit peu sur l'IRM, avec ces particules pour augmenter le contraste des clichés. On fait aussi du stockage de données, parce que c'est magnétique, donc sous un champ ça peut s'organiser d'une certaine manière. On peut créer des motifs différents suivant l'intensité du champ, l'orientation du champ, on peut faire des bâtonnets, on peut faire plein de trucs, c'est ça qui est génial. Et c'est aussi utilisé pour générer de l'hydrogène à partir de l'eau. C'est beaucoup moins efficace que les quantum dots ou les sélénures de cadmium, en fait, les oxydes de fer, on peut les ingérer. Mais l'oxyde de fer, le cœur, vraiment, lui va agir toujours de la même manière, il va être dégradé par les cellules. Et si on a une légère anémie, ça, c'est même mieux, quoi. En fait, le fer va être intégré dans le cycle héminique pour faire l'hémoglobine, donc le porteur de l'oxygène dans le sang. Et donc, en fait, c'est à la limite même du curatif, en fait, une fois que ça se fait dégrader. C'est non, les oxydes de fer sont, de ce côté-là, sont très confortables à travailler parce que sont non toxiques. Il y a eu des études, ça a été longtemps étudié parce que vu que c'est utilisé en IRM, donc on sait que c'est pas du tout toxique. Moi, je travaille sur ces deux propriétés optiques, propriétés magnétiques. Et l'idée, c'est que je vais utiliser d'autres molécules ensuite pour faire des nouveaux assemblages, en fait. J'ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait faire des bâtonnets, on pouvait faire des roses, on peut faire des pyramides. Enfin, on peut faire plein d'assemblages tridimensionnels qui seront composés de plein de petites particules. Et du coup, moi, pour ça, j'utilise surtout des polymères et des micro-ondes.
En gros, tu nous expliques que ce que tu fais, c'est une forme de Lego des molécules. Tu assembles diverses pièces de diverses molécules différentes et à partir de là, tu obtiens un résultat spécifique attendu.
Si, c'est exactement ça en fait. Je vais juste revenir sur le terme de molécule parce que là, c'est vraiment des particules. On n'est plus à l'échelle des molécules. C'est une définition assez ténue en fait. Le principe de molécule et de... Je rentrerai pas dans le détail, mais le principe de molécule et de particule, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, un exemple, la particule. Ça va être une particule de taille nanométrique. Ce que je vais mettre en surface, ça, je vais pouvoir les appeler des molécules. Mais l'ensemble, c'est que c'est un regroupement de plusieurs molécules plus le cœur inorganique. Mais après, l'exemple du Lego, c'est exactement ça, en fait. Le terme Lego-chimie a été employé pas pour les nanoparticules, mais pour un autre type de molécules. Mais c'est la même idée, en fait. On va prendre des blocs, nos blocs élémentaires. Là, moi, c'est les oxydes de fer ou les oxydes de zinc. On va les mélanger. Suivant les conditions, ils vont s'auto-organiser. C'est ça le terme important, c'est de l'auto-organisation. C'est que c'est pas... On va pas lui dire, toi, tu te mets là, ensuite, on prend une autre particule, tu te mets là. Mais là, c'est qu'on va gérer les conditions pour que toutes les particules, d'un seul coup, s'auto-organisent ensemble, en fait. C'est un peu l'idée de... Voilà, vous voyez une personne qui attend devant une boîte ou pour faire la queue et on n'a pas besoin de vous le dire. Vous savez, très bien, vous vous mettez à la queue leu-leu. Bon, c'est pas quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous met les uns derrière les autres. Mais c'est ce qu'on essaye de faire avec nos particules. Bon, forcément, on peut pas leur dire, non, non, mais fais-toi comme ça et tout, sois gentil, sois mignon, comporte-toi bien en société. Non, on va utiliser des facteurs, on va peut-être augmenter l'acidité du milieu, la température, on va changer de milieu, on peut passer nos solvants, on peut essayer de passer dans l'eau, on peut utiliser des molécules comme les polymères, on peut faire de l'ultrasonde, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Après, il faut que ça marche. C'est ça un peu la difficulté, c'est que c'est le plus dur, c'est que les idées, on les a. Après, ça marche pas forcément, en fait. Donc oui, c'est un peu des Lego qu'on fait, mais dans le sens que c'est une auto-organisation de Lego. C'est un peu comme si t'avais tes petits Lego, si tu les mouillais, en fait, ils commençaient à tous s'accrocher ensemble pour faire une pyramide. C'est un peu l'idée qu'on veut faire avec les nanoparticules. On va pas les prendre une par une, c'est qu'on met dans des conditions qui fait qu'elles vont faire un résultat.
Donc maintenant que tu nous as présenté le principe d'auto-organisation, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta manière d'auto-organiser la matière dans ton laboratoire? Qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais?
En fait, je peux pas vraiment parce que je suis encore au stade d'essayer avec mes systèmes, mes oxydes particuliers. Je teste plein de conditions, mais ce qu'on essaye de faire, on va essayer d'organiser nos particules avec des molécules qu'on appelle des polymères. En fait, qu'est-ce qu'un polymère? J'anticipe la question. En fait, ces polymères, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui est composé de plusieurs mères. Et en fait, mère, ça vient du grec ou du latin, qui veut dire unité en fait. Donc c'est plusieurs unités. L'idée du polymère, c'est qu'on va prendre un motif, une molécule, ça peut être différents trucs, comme un exemple type de polymère, par exemple le PVC, polyvinyl chloride. Ça va être juste deux carbones et un chlore, et on va répéter cette séquence de carbone et un chlore un grand nombre de fois. Et donc en fait, le monomère, l'unité de base, c'est le vinyle chloride, le chlorure de vinyle, et quand on va le mettre tous à la suite, ça devient un polyvinyle chloride, polychlorure de vinyle. Donc moi, j'utilise pas du PVC, j'utilise ce qu'on appelle de la polyvinyle pyrrolidone, et j'utilise celui-là et un autre qui est le polyacide acrylique, donc comme on peut trouver dans les peintures acryliques, etc. Enfin, un peu différent, mais c'est la même idée en fait. On va passer les détails. Et j'utilise ces deux polymères, et ce que j'essaye de faire, en fait, c'est d'utiliser un polymère qu'il faut voir comme une longue chaîne. Il faut voir ça comme une grande ficelle. Et ce que j'essaye de faire, c'est mettre cette ficelle autour de mes particules et faire des petits paquets de particules, pour parler simplement. Donc j'arrive à faire à mettre mes polymères sur mes particules. Par contre, je sais toujours pas si j'en mets un par particule ou un polymère pour plusieurs particules. Donc il y a des gens qui ont réussi à faire ce genre de choses sur les oxydes de fer. On travaille pas dans les mêmes systèmes. Moi, je travaille sur de la PVP qui va être un polymère biocompatible, parce qu'on vise des applications en IRM notamment. Et donc voilà, il avait des propriétés très intéressantes, ce polymère, au niveau du vivant, et puis d'autres propriétés sympas. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire de l'auto-organisation, donc la voie polymère, c'est une des voies qui est utilisée pour faire de l'auto-organisation. Ensuite, ça c'était pour la partie oxyde de fer. Je travaille aussi sur les oxydes de zinc qu'on essaye d'organiser, donc on a essayé les polymères dessus. On a essayé de faire du micro-ondes aussi, parce que sous irradiation micro-ondes, les particules ont tendance à se polariser. En fait, un côté va avoir une charge positive, un côté va avoir une charge négative, pour résumer un petit peu. Et on s'est dit, bah, si on les met sous micro-ondes, peut-être que, on travaille sur des bâtonnets, peut-être que ces bâtonnets, bah, tous les plus et les moins, en fait, ils vont se mettre tous tête bêche et on va faire un truc sympa. Et on commence à avoir des résultats qui tendraient vers ça. Donc, l'auto-organisation, il y a beaucoup de manières de le faire. Moi, je fais avec des polymères. Donc, je fais de la synthèse de polymères, je fais de la synthèse de particules, je mélange les deux, je vois ce qui se passe. Et donc, moi, c'est cette manière-là que je le fais, en utilisant des grandes molécules organiques.
Faisons une petite pause avec The History of Apple Pie du groupe Tug. We'll be right back. C'était donc The History of Apple Pie par Tug. Revenons maintenant avec Gaël Casteroux qui nous expliquera la suite de cette expérience sur les nanoparticules. Maintenant que tu nous as expliqué tout le principe de l'auto-organisation, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu essayes de parvenir à auto-organiser tous ces atomes de fer ensemble ?
Je vais parler surtout de l'oxyde de fer parce que c'est là où j'ai le plus de résultats, mais je vais reprendre un vieil adage, l'union fait la force. Pourquoi ? C'est par rapport à l'IRM en fait, avec les nanoparticules d'oxyde de fer qui sont magnétiques, comme je l'ai dit, on aura plus d'effet si ponctuellement on a plus de particules au même endroit. Ça semble évident, mais en fait c'est pas si évident que ça, c'est le fait d'organiser les particules en paquets. On va cumuler l'aimantation pour faire une grosse aimantation, en fait un gros aimant qui va être beaucoup plus efficace au niveau de l'IRM. Au niveau de l'IRM, en fait, les nanoparticules vont avoir une influence sur le champ magnétique qui fait que sur votre cliché IRM, là où il y a les particules magnétiques, en fait, ça va paraître noir. C'est déjà utilisé pour la détection du cancer du foie, par exemple, où les cellules cancéreuses du foie retiennent pas du tout les particules, qui fait que tout le foie devient noir, sauf l'endroit où il y a un cancer. En fait. Donc l'idée, c'était d'améliorer les propriétés en regroupant les particules, en faisant des paquets de taille définie. Donc nous, l'idée qu'on voulait, c'était de faire ça. L'autre idée qu'on avait aussi, c'est de voir en fonction de la longueur du polymère, parce que le polymère, finalement, on peut l'acheter. Il y a des compagnies qui vendent des polymères et ils peuvent vendre différentes longueurs. Et nous, notre idée, c'était de voir, en faisant varier la longueur du polymère, est-ce qu'on arrivait à changer la taille des agrégats, si on arrive à en faire, et aussi voir en IRM si finalement, parce qu'il y avait des études théoriques et du coup on voulait vérifier certains faits, la longueur du polymère elle peut peut-être influer, parce que dans l'idée, si on a un polymère plus gros, plus long, je veux dire, il va peut-être faire plusieurs fois le tour de notre paquet, qui fait qu'il va faire une épaisseur un peu plus grosse qu'un polymère plus petit. Et ça, on voulait voir si ça avait une influence. Parce que comme en IRM, on regarde l'eau, la résonance magnétique de l'eau. Si on a la vitesse de diffusion de l'eau, le mouvement de l'eau, en fait, la vitesse de l'eau va influer aussi sur la réponse en IRM. C'est pour ça qu'en IRM, par exemple, le sang, on le voit pas parce qu'il va très vite. Donc, pour ça que les eaux, ils apparaissent différemment. Pourquoi tous les tissus apparaissent différemment ? Parce qu'en fait, l'eau bouge pas à la même vitesse dans les tissus. C'est une des raisons. Et si on ralentit l'eau à la périphérie des particules, c'est peut-être plus efficace. Il y a des études théoriques qui nous disent que ça pourrait être plus efficace. Si la molécule d'eau bouge moins vite, proche de la nanoparticule, c'est plus efficace. Donc notre idée, c'était de mettre un polymère plus long pour faire une couche plus longue. Et la molécule d'eau, elle est un peu piégée dans le polymère, qui fait qu'elle bouge moins vite. Et donc, on aurait peut-être une meilleure réponse par rapport à ça. Donc c'était vraiment pour améliorer les propriétés. Parce que l'auto-organisation va permettre de développer, d'augmenter soit les propriétés existantes, soit d'en développer de nouvelles en fait. On peut faire des auto-assemblages aussi avec plusieurs types de particules. Donc nous, on travaille sur ça en fait, surtout sur la réponse en IRM. Et avec nos polymères, on essaye de faire l'auto-organisation. On voit si ça a vraiment une influence sur l'IRM et on fait varier d'autres facteurs comme la longueur des polymères.
Donc en fait, vous êtes en partenariat avec l'université de médecine pour faire ces recherches sur les IRM, ou est-ce que vous faites ces recherches dans un cadre purement théorique au sein de vos labos de chimie ?
On n'a pas de partenariat à proprement parler. Enfin, on va faire nos mesures IRM. Dans le sens, ce n'est pas un projet qu'on a monté avec la fac de médecine. C'était plus un projet de valorisation. Parce que je travaille aussi à Toulouse, dans un laboratoire qui font de la synthèse de particules, suivant une voie particulière. Et notre partenariat, c'est qu'on fait... moi, je fais la synthèse de particules dans ce labo-là. Je les ramène à Rennes. Et à Rennes, donc sous la direction du docteur Fabienne Goffre, on fait de la physico-chimie, donc on regarde ce qu'il y a en surface, on essaye de faire de l'organisation, on essaye de faire un transfert de phase parce que nos particules sont de base dans un solvant organique, et on essaye de les mettre dans l'eau. Parce que si on veut faire de l'IRM derrière, c'est mieux d'injecter de l'eau que du solvant organique. On a vraiment étudié l'interaction du polymère et de la nanoparticule pour faire de la valorisation. Voilà, on a choisi l'IRM parce qu'il y a des choses qui avaient déjà été faites, on peut facilement comparer. Sur le stockage de données, c'est moins facile parce que c'est pas encore au point. L'IRM, les nanoparticules ont été vraiment étudiées. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, hein. Mais très peu sur l'influence dans la longueur du polymère et sur les agrégats, par exemple. Il y a eu moins de choses qui se sont faites. Donc c'était plus de la valorisation. On a choisi l'IRM parce qu'il y avait des choses, on partait pas en terrain inconnu. On pouvait comparer avec des choses qui avaient déjà été faites. Donc c'était plus de la valorisation d'un savoir-faire de physico-chimiste et de synthèse de nanoparticules qu'on essaye de valoriser en IRM. Mais après, voilà, c'est qu'on a eu les résultats, on a testé parce que on avait un IRM à Vigean, donc sur Rennes, qu'on pouvait tester, où on pouvait tester nos systèmes, donc c'était confortable. Après, on n'est pas hermétique au stockage de données ou quoi que ce soit. Il y avait l'IRM là, donc on a testé parce qu'on sait que ça marchait comme ça. Mais nous, notre fond de commerce, c'est l'IRM, c'est bien joli, mais on n'est pas des médecins, on fait pas de la chimie thérapeutique, etc. Nous, on fait de la synthèse de nanoparticules et de la physico-chimie en surface, et on tend à faire de l'auto-organisation, de l'auto-assemblage. Enfin, Fabienne a beaucoup d'expérience là-dessus, elle a fait de l'auto-assemblage avec d'autres systèmes, des lipides, etc. Puis là, on essaye avec des nanoparticules de faire la même chose, en fait.
Maintenant que tu nous as exposé vos méthodes de travail ici à l'Institut de Chimie de Rennes, est-ce que tu peux m'exposer un peu les objectifs à l'avenir sur la recherche des nanoparticules et de l'auto-organisation des nanoparticules au sein de l'Institut chimique de Rennes ?
Je vais essayer d'y répondre parce que c'est une question assez difficile. Donc, comme je l'ai dit au début, moi je dépends de l'équipe ICMV, comme Cyril et Benoît, donc ingénierie, chimie et molécules pour l'Uvion. Donc c'est pas du tout représentatif de tout ce qui se fait dans l'Institut des sciences chimiques de Rennes, parce qu'il y a des équipes qui font des matériaux, qui font aussi des nanoparticules, mais utilisées pour des applications matériaux. Il y a des gens qui font qui recherchent pour de la catalyse, d'autres qui font des polymères aussi. Enfin, c'est très large. Donc là, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant à faire avec une autre équipe de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, et on va monter des partenariats. Mais déjà, nous, on a déjà pas mal de projets au niveau de l'auto-organisation, parce qu'on recherche plein de techniques pour faire de l'auto-organisation, pour valoriser nos matériaux. Donc voilà, je peux pas vraiment te répondre parce que c'est vraiment en fonction des résultats qu'on a. C'est quand même y a des études un peu compliquées parce que j'ai des résultats, mais après, pour en tirer tout, pour vraiment les exploiter, il faut faire d'autres méthodes d'analyse. On n'a pas forcément tout l'équipement. Donc ça va dépendre de plein de choses. Je peux pas vraiment répondre, mais dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, c'est vraiment faire l'auto-organisation de nos particules dans des paquets de taille vraiment définie en nombre de particules, qu'on les teste en IRM, qu'on voit qu'on a une bonne réponse. Et le top du top, ça serait d'essayer ça sur des cellules ou même sur une souris ou un cochon. Mon objectif, la première fois qu'on a fait de l'IRM, on m'a parlé de l'IRM sur un cochon. Et j'ai trouvé ça très fun. Donc moi, l'objectif, la barre que je me fixe, ça serait de réussir à faire de l'IRM sur un cochon avec mon système. Après, tout va dépendre des résultats qu'on obtient. Si on arrive à faire ça, ça va poser d'autres questions comme de la toxico, à faire dessus, etc. Enfin, on n'en est vraiment pas là. On est vraiment juste pour l'instant à mélanger nos polymères, nos particules. On fait un transfert de phase, on va tester en IRM, on voit qu'on a une réponse qui est plutôt bonne. On a vraiment des systèmes qui sont intéressants en IRM. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on finisse nos analyses, qu'on aille vraiment plus loin, et en allant plus loin, ça va soulever d'autres questions. Et donc, en fait, on va... Voilà, c'est très dur de dire, de répondre à cette question, parce qu'en fait, je ne sais pas de quoi demain est fait. Ça dépend des résultats qu'on a là. On a déjà quelques collaborations avec des gens de l'ICMV, de l'école de chimie, on fait des trucs tous ensemble. Mais après, ça dépend, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on tombe sur un résultat complètement par hasard. Ah ben tiens, je vais demander à tel gens, je sais qu'ils sont experts dans le domaine, je vais leur demander, moi j'ai obtenu ça, est-ce que ça leur semble concret? Ils disent, ah ben tiens, c'est intéressant, et après tu montes une collaboration. Donc je peux pas répondre. Je peux dire qu'est-ce que j'espère, après je peux pas dire, il n'y a pas de ligne vraiment définie. Moi, je sais ce que je recherche, je sais où je veux arriver. Après, il y a des trucs qui vont se passer à droite, à gauche. Et voilà, donc c'est un petit peu dur à répondre à cette question. Voilà.
Merci Gérald. C'était donc Gérald Castereau qui nous présentait ses travaux de l'Institut de chimie de Rennes. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet Radio Campus Rennes. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne année à tous. Merci. Clap the mighty.